Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul Bénédicte Bolloux pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Aujourd'hui, l'esprit de solidarité tend à disparaître peu à peu de nos habitudes. Si plusieurs cas de suicide ont été relayés par la presse en Côte d'Ivoire, ce problème de santé publique reste tabou. Comment le prévenir? Dans ce magazine, on échangera avec le directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Professeur Kwame Dar, bonjour. Dites-nous, c'est quoi le suicide?
Le suicide, c'est le fait qu'un individu, dans une grande situation de souffrance psychologique, met fin à sa vie. Mais il va passer par des étapes qui peuvent être des tentatives de suicide, des moyens intermédiaires qui sont des équivalents de quelqu'un qui fait se donner la mort.
Quels sont les facteurs de risque?
Il y a des facteurs de risque qui sont liés à l'individu. Il y a des facteurs de risque qui sont liés à l'environnement. Première des choses, des facteurs de risque liés à l'individu qui sont un peu de deux ordres. La personne n'est pas une situation sociale. Vivre dans des situations de pauvreté extrême, que la personne souffre d'une maladie grave, qui peut être une maladie psychiatrique ou bien une maladie somatique. Parce qu'il y a des cas de suicide chez des personnes qui souffrent de diabète. Chez quand on dit on va t'amputer, s'il ne bénéficie pas d'une prise en charge rapide, il peut se laisser aller. Ou bien encore, il y a des facteurs qui sont liés au sexe. Ce qu'on observe sur le plan des données, c'est qu'il y a plus de tentatives de suicide chez les femmes, mais chez les hommes, il y a plus de suicides. Ça veut dire que les femmes, elles ne vont pas jusqu'au bout. Et elles sont plus demandeuses de soins, de services, de santé que les hommes. Et donc, les hommes, eux, quand ils sont sur le chemin, ils vont jusqu'au bout. Et les moyens qu'ils utilisent sont très violents. C'est lié aussi au caractère très impulsif des hommes, très réactionnel. Ils sont dans le passage à l'acte violent et c'est ce qui explique que dans beaucoup de situations de violence basées sur les gens, le profil des auteurs, ce sont des hommes parce que ce sont eux qui portent main, qui passent rapidement à l'acte. Ça veut dire que le contrôle des émotions n'est pas bien fait. Maintenant, il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement. Où on peut être 10 dans une maison et vivre seul son problème. On peut être dans une communauté religieuse, musulmane, islamique, mais on vit seul son problème. Parce que souvent, on est dans une forme d'indifférence vis-à-vis de l'autre. Et on dit chacun a ses problèmes. Depuis le décès du vieux, c'est toi ton affaire qui finit pas. Et donc, vous voyez qu'on est toujours dans cette attitude de banaliser la souffrance de l'autre. On a honte de dire qu'on a un proche qui se sent pas bien parce que il vient de dire qu'on est d'une mauvaise famille et la famille risque d'être indexée. Deuxième point, il y a tout l'environnement socio-économique. Je donne un exemple. Si aujourd'hui on dit le coût des matières premières chute, on voit la dépression financière des coûts, mais n'oublions pas que derrière ça, il y a des drames familiaux. Donc, ces planteurs qui ont pris des crédits, qui continuent de scolariser les enfants, la banque ne va pas dire on comprend, il y a eu une dépression financière, une réduction du coût, donc on annule tes crédits. Non, la dette se paye. Vous voyez que toutes ces situations, le fait de perdre un travail, dans les entreprises, c'est à l'aide du numérique, c'est à 4h du matin, on envoie au DG pour dire bon, il faut licencier 50 personnes. Et le DG, il prépare pas bien les gens. On vient afficher et cette personne qui a 2 ans de la retraite, qui a pris des prêts, se trouve face à une situation insoluble. Pendant la crise de Covid, j'avais tendance à dire tout le monde ne va pas être infecté par la Covid, mais tout le monde sera affecté psychologiquement par la Covid. Tout le monde va ressentir psychologiquement l'impact de la crise sanitaire liée à Covid. Donc tous ces environnements, les instabilités, les violences intercommunautaires, tout ça vient créer un environnement qui est défavorable au maintien de la santé mentale des populations et ça fragilise la population.
Alors parlons justement du type de suicide que l'on rencontre fréquemment dans notre pays.
Très souvent, c'est des gens qui se jettent, qui se défenestrent, qui prennent par exemple une machette, un couteau ou bien qui se pendent. On va vraiment vers des extrêmes. Et très souvent, c'est le profil des hommes qui souvent gèrent mal des situations de perte, d'humiliation. Mais la tendance aussi en train de se féminiser. Et du côté souvent des adolescents et des jeunes, ce qu'on appelle des équivalents suicidaires, ça peut être l'utilisation de produits toxiques, des mélanges de cocktails pour vraiment se faire mal. Ou bien ce sont des conduites violentes sur la route, imprudentes, sans casque. Souvent, ce sont des équivalents suicidaires. Et nous, on a tendance à dire, avant toute conduite suicidaire, que quelqu'un passe à l'acte, si on avait pris le temps de bien observer, de bien écouter, la personne était déjà en souffrance psychologique. Et le fait qu'il soit sur la moto, il perd le contrôle, il perd la vigilance, et à un certain moment, il se laisse aller. Donc, au niveau des jeunes, c'est vraiment beaucoup de conduites à risque. Chez les femmes, c'est soit utiliser des médicaments, soit se scarifier, soit s'automutiler. Donc, on va vers ces situations. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes filles se retrouvent à 4h du matin aux urgences, en réanimation. Et comme encore, il y a une forte stigmatisation des problèmes de santé mentale, on ne voit pas que la personne est en détresse psychologique. Et souvent, le personnel de santé même dit, elle nous saoule. Il laisse la personne seule pour dire, elle va réfléchir sur son cas. Parce que ici, nous, on gère les vrais problèmes. Si elle ne veut pas vivre, c'est que nous, on va sauver ce qui... Je ne sais pas si vous comprenez.
Tout à fait.
On va dire, elle est hystérique. Non, la personne est en souffrance. Non, mais à cause d'un homme, tu fais ça. On est toujours encore en train de moraliser. Oh, la personne en souffrance psychologique et la personne en détresse. Et très souvent, quelqu'un qui a déjà tenté de se suicider, les années qui suivent, le risque de passer à l'acte, si rien n'est fait, malheureusement, l'acte risque d'aboutir.
À quel moment la société doit être alarmée dans le comportement de ces personnes?
À tout moment. Des indices très simples. Quelqu'un qui vient vous dire, moi-même j'ai envie de dormir pour ne plus me réveiller, il est en train de vous dire qu'il est vraiment souffrant, que c'est un niveau grave. Quand la personne vous dit, moi-même, c'est à cause de mes enfants que je suis là, sinon, et puis la personne ne dit plus rien, la personne est en train de vous dire que ce qui maintient encore la personne en vie, ce sont ses enfants. Quand je regarde mes enfants, si je fais ça, qui va s'occuper d'eux? Donc, la personne est vraiment sur une ligne de crête où il faut vite intervenir. Je donne des exemples comme ça parce qu'on entend tous les jours ce type de discours et on banalise. Ou bien c'est quelqu'un qui ne mange plus depuis un certain moment, qui coupe contact avec tout le monde. Ou bien aussi, ça peut être la grand-mère qui a vécu 60 ans avec son mari. Elle vient de le perdre. Très souvent, on ne fait pas attention. Dès qu'elle a perdu ce proche, si on ne la soutient pas, elle va vous dire au revoir. Elle va se laisser mourir parce qu'elle ne trouve plus de raison de vivre. Parce qu'elle va dire, de toute façon, moi-même, je sais que je suis une charge pour vous. Moi-même, je sais que vous êtes obligé de me supporter, que je vous fatigue. Moi-même, je vais partir. Elle est en train de vous dire qu'effectivement, elle souffre. Mais comme la souffrance de la personne âgée, on banalise, on dit, ah, c'est toujours c'est ce qu'elle dit. Mais le prochain jour, après, vous allez dire, mais attends. Donc, elle était en train de dire, elle envoyait les enfants au marché, elle a préparé. Là, elle était en train de nous dire au revoir. Parce qu'on n'a pas pris en compte ce discours, ces comportements, ces paroles, on ne les a pas identifiées comme des signes d'alerte.
Selon le rapport que vous avez proposé sur la santé mentale, il est dit qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les jeunes de 20 à 29 ans qui sont les plus touchés. Comment comprendre cette situation?
Ce qui se passe, c'est que les statistiques de 2021 du recensement montrent clairement que plus de 75% de la population est constituée de jeunes. Donc, on a une population qui est jeune. Et donc, la jeunesse est confrontée aujourd'hui à deux ou trois défis. Le défi de la formation, le défi de l'emploi, le défi d'aller vivre ailleurs. Or, ces trois éléments sont intriquement liés à ce qui est dans leur tête. Aujourd'hui, les modèles de réussite ont changé. Les clichés de réussite ont changé. Aujourd'hui, la jeunesse est dans ce qu'on appelle la mentalité chap-chap. En même temps et mieux, tout près n'est pas loin. Donc, ça fait qu'à un certain moment, pour eux, s'asseoir, aller à l'école, c'est trop long. Il y a des raccourcis. Les raccourcis, c'est faire amour, c'est être brouteur, c'est être X, Y, Z. Donc, ça fait que si vous posez la question aujourd'hui à un enfant de 10 ans, qu'est-ce que tu veux être demain? Tu diras soit je veux être footballeur, je veux être influenceur, je veux être Didier, sauf être médecin. On ne gagne pas l'argent là-bas. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, le rapport de la jeunesse à l'argent fait qu'ils sont prêts à aller dans ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Donc, quand vous prenez la question de la cybercriminalité, on est toujours encore dans la même problématique. Troisième chose, aujourd'hui, on est dans un monde globalisé où aujourd'hui, l'enfant de 10 ans, il a le smartphone, il sait tout ce qui se passe dans le monde. Donc, il est sur la terre des ancêtres noirs, mais son esprit est européen. Pour lui, sa vraie vie, ce n'est pas en Afrique. Sa vraie vie, ce n'est pas rester à Daloa, ce n'est pas rester à Boaké, ce n'est pas rester à Abidjan. Il est déjà dans sa tête ailleurs. Et l'environnement aussi fait que quand tu regardes, entre guillemets, ce langage qui sort, qui devient comme une croyance sociale, on n'a plus besoin d'aller à l'école pour réussir. vous comprenez que ça déstabilise la santé mentale de ces adolescents jeunes. Et pour eux, ils vont dire, mais on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ici. Donc, on peut prendre la route du désert, on peut prendre la route de la mort. Et donc aussi, culturellement, beaucoup de familles aujourd'hui dans cette région conditionnent les jeunes très tôt à aller à l'aventure parce que c'est source d'investissement pour eux. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils ont échappé à la mort, par exemple en Tunisie, au Niger, en Libye, et qu'ils reviennent, c'est un déshonneur pour la famille. Ils disent, mais comment toi tu as fait pour revenir? On ne se pose pas la question, Dieu merci, si tu n'es pas mort. Et donc, on le culpabilise, mais les autres, comment ils ont fait pour rester là-bas? Et toi, comment tu as fait? Et puis, on t'a attrapé. Et puis, toi, tu es revenu. Or, on a investi sur toi. Donc, vous voyez, la pression sociale, la pression culturelle fait qu'à un certain moment, le jeune ne trouve plus des raisons d'être en Côte d'Ivoire parce que le travail qu'on lui propose, pour lui, psychologiquement, c'est pas un travail. Donc, c'est un défi aujourd'hui pour tout le processus d'emploi jeune, de réinsertion, de prendre en compte le réarmement psychologique des jeunes. Sinon, on peut leur donner des kits de réinsertion, mais c'est en attendant.
Alors, en vue justement de contribuer à la prévention et à la réduction de ce nombre de suicides auxquels nous assistons depuis un bon moment en Côte d'Ivoire, que préconisez-vous exactement dans cette prévention de risque de suicide?
Dans la prévention du risque, il y a ce qu'on appelle la prévention primaire. Dans la prévention primaire, c'est comment on fait pour maintenir la population cible en bonne santé mentale. C'est-à-dire comment on met des dispositifs pour s'occuper de la santé mentale et le bien-être psychologique des adolescents et jeunes. Comment on fait pour qu'à un certain moment, ils soient heureux, ils soient épanouis bien dans leur tête et bien dans leur corps ou bien dans leurs chaussettes. Comment on travaille avec eux à partir des écoles, au préscolaire, à l'université, dans les crèches, dans les maisons, dans les familles, avec les communautés pour l'éducation au bien-être psychologique. La santé mentale, le bien-être psychologique, ce n'est pas une affaire de blanc. Ce n'est pas une affaire de « j'ai réussi ». Non, c'est la condition à la réussite. C'est la condition à la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire a vécu beaucoup de conflits multiformes. Ces jeunes d'aujourd'hui, c'est la génération des traumatisés. Ça, on n'a pas pris en compte la mesure de cela. Parce qu'on n'a pas vraiment investi, on n'a pas fait des plans d'urgence de réarmement psychologique et durable des jeunes. Et donc, on paye le prix et donc, on doit rapidement reprendre le deuxième pilier de notre système de santé, la santé mentale, la santé physique. Et donc, c'est tout le travail au niveau du programme et on est en train de discuter avec la direction de la jeunesse du ministère, de la jeunesse, de l'emploi jeune, pour faire des caravanes, pour être à l'écoute de ces jeunes, pour travailler avec les centres sociaux, avec les foyers des jeunes, avec les espaces d'emploi jeunes, pour qu'on ait des espaces où on prend le temps d'écouter les jeunes. Un jeune qui n'est pas écouté est un monstre social. Et les bombes qui va déclencher, on ne pourra pas les contrôler.
Alors, situé 30e au rang mondial, 3e au niveau africain, est-ce que le suicide est considéré dans notre pays comme un problème de santé majeur ou public?
Alors, les statistiques alertent l'État de Côte d'Ivoire, donc le ministère de la Santé, et définissent clairement que c'est des problèmes de santé publique par rapport aux normes. Et donc, il y a des efforts que le ministère doit pouvoir faire et que nous, on porte le plaidoyer auprès de nos autorités parce que la réponse est multisectorielle. La stratégie au niveau du programme, justement, c'est de faire de telle sorte que, après le résultat qu'on a eu, on puisse valider le plan national de prévention du suicide qui va permettre de former tous les acteurs des différents ministères, parce que le ministère de l'Agriculture est concerné, le ministère de l'Économie est concerné, parce qu'il y a des cas qui bloquent les usuriers, qui bloquent les cartes bancaires. Mais c'est un drame de voir qu'un père de famille, sa carte magnétique est entre les mains d'un usurier. Et à la fin du mois, c'est lui qui retire l'argent et qui donne peut-être 5 000 ou 10 000. Mais quand vous voyez ce père de famille, il est obligé d'aller s'asseoir dans un couteau tout grum, boire pour ne plus penser, pour ne plus réfléchir. Vous voyez que c'est multisectoriel. De la même manière qu'il y a des fonds qui sont levés pour le VIH, des fonds doivent être levés pour financer la santé mentale parce qu'il y va de la pérennité et de la vie en société. Vous voyez un cadre qui psychologiquement est perturbé, un enseignant, sa carte magnétique est entre les mains d'un usurier, comment il aura le temps, comment il peut avoir la tête pour éduquer nos enfants? Ce n'est pas possible. Il va se retrouver dans le même couteau tout grum que les élèves et peut-être même les élèves qui vont lui offrir. Et les élèves ont le pouvoir sur l'école. Il voit un enseignant qui est dans un caniveau. Ça veut dire qu'il faut un plan de promotion du bien-être psychologique et de gestion du stress au travail.
Alors, il est dit par vous, les spécialistes, et vous particulièrement, que la santé mentale concernant le suicide peut être réduite par la présence de facteurs de protection. Alors, de façon un peu plus détaillée, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous proposez?
Justement, on peut se prémunis contre le suicide. Il y a des facteurs de protection positifs. Je donne un exemple. On est aujourd'hui dans une école et on se rend compte qu'il y a eu un ou deux cas de suicide. La question des parents, puis de la direction, c'est comment on fait pour ne plus qu'il y ait ces types de cas. Mais c'est justement de pouvoir développer les compétences émotionnelles de ces jeunes, affectives, comportementales. Ça veut dire, une chose, c'est de dire aux jeunes, ils n'ont qu'à changer de mentalité. Mais comment on change? C'est tout un dispositif d'accompagnement pour que ces jeunes-là puissent se connaître, puissent développer la confiance en eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu donné. Ça veut dire, c'est une culture. Il faut intégrer ça souvent dans les matières ou bien dans des activités spécifiques de vie scolaire. Et parlant de vie scolaire, il y a beaucoup d'occasions manquées. Par l'art, par la musique, par le sport, par le théâtre, par la danse, tous ces espaces sont des espaces où on développe l'épanouissement des jeunes. Malheureusement, ces types d'activités sont perçues comme quelque chose de dérisoire, de non productif, de non scientifique. Or, ça contribue justement à l'épanouissement des jeunes. Quand on regarde les écoles d'avant 2000, il y avait tout ce qui est activité de coopérative, OASU, qui n'est pas neutre. Ce sont des activités qui visent à promouvoir la santé mentale des élèves et des étudiants. Lorsqu'on ampute tout ce dispositif, on ampute une partie du cerveau de ces jeunes. Et donc, ils sont plus motivés, ils s'ennuient, ils sont frustrés. Parce qu'un être humain ne vit pas avec un seul cerveau. Le deuxième cerveau était amputé. Ça veut dire tout ce qui est activité d'épanouissement, de théâtre, de culture générale, où ils sont en capacité de pouvoir gérer les émotions dans la contradiction avec les autres, dans le sport, où ils apprennent à gérer la frustration de façon positive, ils n'ont plus ces espaces. Ils vont gérer ces frustrations en poursuivant leurs amis, en raquettant. Et donc, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, l'espace universitaire ou bien l'espace scolaire est devenu un lieu de violence avec des congés anticipés parce qu'ils s'ennuient. On peut donner toutes les raisons qu'on veut, on ne s'occupe pas du bien-être psychologique des jeunes. Le jour où on va intégrer ou réintégrer la composante santé mentale dans nos stratégies au niveau scolaire et préscolaire, on va voir que les jeunes vont se réconcilier avec eux-mêmes et l'école va se réconcilier et on va avoir des meilleurs résultats.
Alors, quel sera dans tout ce processus le rôle du corps médical?
Le premier rôle de tout professionnel de santé, ce n'est pas de soigner d'abord. Notre rôle, c'est de faire la promotion de la santé. Comment faire pour que les gens ne tombent pas malades? Or, dans notre culture et même dans la culture de la population, on vient à l'hôpital lorsqu'on est malade. Et nous aussi, on se maintient dans ce dispositif. Donc, il faut changer de paradigme. Et pour nous, les agents de santé, ce sont des promoteurs du bien-être psychologique. C'est à eux de pouvoir enseigner aux gens l'importance du sport, l'importance de la lecture, du théâtre, de la musique, de la bonne musique, bien dormir. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple. Vous êtes dans une entreprise et puis le médecin de santé au travail vous donne l'arrêt de travail. Il dit, va te reposer. Mais est-ce qu'on enseigne aux gens comment bien dormir? Donc la personne, il dort, mais son smartphone à côté, son ordinateur à côté, parce que à 4h du matin, le directeur lui envoie un mail. Et donc son cerveau ne peut pas se reposer. Donc il y a à faire la promotion de la santé mentale, expliquer aux gens comment bien dormir, comment bien manger, comment faire du bon sport. C'est ça d'abord. Les autres, et lorsqu'on arrive à cette culture de la santé mentale, à partir de ce moment, les autres problèmes se règlent d'eux-mêmes. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, quand il y a des situations, par exemple, on sait que des jeunes sont à risque de faire des problèmes de santé mentale, il faut faire de la prévention. Exemple, si on sent qu'il y a une situation, une jeune fille sur les réseaux sociaux, elle était victime d'harcèlement, il faut alerter, la repérer déjà, prendre le temps que la conseillère ou le conseiller puisse l'écouter pour que des mesures soient mises en place pour la protéger. Ou bien on constate qu'une jeune fille a été victime d'abus sexuels par des étudiants, il faut la protéger et il faut que des mesures soient mises en place à la fois pour garantir elle sa sécurité et surtout sa santé mentale. À partir de ce moment, elle va commencer à se reconstruire progressivement, mais il ne faut pas qu'on étouffe l'affaire. Parce qu'en étouffant, on lui dit que c'est elle qui a cherché.
Alors, professeur, quoi, nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est le message que vous souhaitez partager avec la population à l'écoute de cette émission?
Au nom du ministère de la Santé, donc pour le compte du Programme National de Santé Mentale, on souhaite que la population s'approprie les messages en matière de santé mentale. C'est ensemble qu'on peut régler efficacement les problèmes de santé mentale. Aux autorités, c'est de dire, investir dans la santé mentale, c'est investir dans le développement durable. Aux maires, aux élus locaux, aux députés, prendre des mesures pour légiférer sur les questions de santé mentale, c'est de sécuriser une nation et c'est de renforcer la cohésion sociale.
Radio de la paix,
Les autorités ivoiriennes semblent prendre conscience de la situation. Parmi les plans d'action en réflexion figure le recrutement de psychologues dans les hôpitaux publics afin de les rendre plus accessibles à la population. Les spécialistes de la santé mentale soutiennent que le suicide peut être prévenu car la plupart des personnes qui ont des pensées suicidaires ou qui ont fait une tentative de suicide ne meurent pas du suicide. Un grand nombre d'entre elles arrivent à surmonter ces expériences et à vivre ensuite une vie épanouie. Dans ce magazine de santé, nous en parlions avec le professeur Roi Assemant Médard, le directeur coordonnateur du programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire. Fin de Santé pour tous. Merci et à bientôt.